Et on commence avec le premier sujet de ce journal, une nouvelle méthode pour vacciner les plantes de virus qui est en cours d'élaboration.
Ce serait une alternative aux pesticides ou aux OGM. Le cytomégalovirus, par exemple, peut détruire des champs entiers de citrouilles, de concombres et de melons. Une équipe internationale de biochimistes vient de publier leurs travaux. Et leurs résultats sont très encourageants. Ils ont testé leurs molécules sur des plantes, par spray, et 90% d'entre elles n'ont pas été infectées par le virus en question. Pour cela, ils se sont calqués sur le système de défense naturelle des plantes. Ils ont identifié les molécules les plus combatives contre les agents pathogènes. Pour bien comprendre, quand un virus attaque un organisme, il l'infecte en produisant des ARN viraux. Pour se défendre, la plante peut couper ces molécules avec des ciseaux à enzymes, ce qui produit alors de petits ARN interférents. Des milliers en sont produits, sauf qu'ils sont peu à être efficaces. Sven-Erik Behrens est responsable de cette étude et biochimiste à l'université de Halle-Wittenberg. Il détaille pour nous son processus de criblage.
We developed a method that is capable to identify exactly.
On a développé une méthode capable d'identifier exactement sur les milliers de petits ARN interférents fabriqués par la plante quels sont ceux qui sont immunologiquement efficaces contre le virus.
That we, let's say, use a so-called in vitro system. So we add.
Dans des expériences in vitro, nous avons ajouté aux ARN viraux notre extrait cellulaire qui contenait ces enzymes actifs. Ensuite, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fractionné les ARN interférents actifs. Ceux qui précipitent les défenses immunitaires en guidant un groupe de protéines complexes, appelé argonautes, et qui détruisent les ARN nuisibles. Puis, toujours in vitro, nous les avons testés pour vérifier s'ils étaient capables d'agir contre le génome du virus.
En bref, hier, dans la revue PLOS Pathogens, des chercheurs espagnols ont identifié une nouvelle mutation génétique qui immunise naturellement du VIH.
Après la mutation du gène CCR5 identifié chez Timothy Brown, le patient de Berlin, voici le gène TNPO3. La mutation de ce gène est rare, elle ne touche qu'une centaine de personnes au monde et elle provoque une maladie musculaire tout aussi rare. Le gène TNPO3 était déjà connu des virologues car il est impliqué dans le transport des cellules virales. Les généticiens de Madrid ont tenté d'infecter une famille porteuse de cette mutation, en vain. Pour l'élaboration d'un traitement anti-VIH, cette découverte est une nouvelle piste de recherche.
Et aux États-Unis, les limitations sur les fuites de méthane dans les puits d'extraction de gaz vont être abrogées.
Et c'est ce qu'a déclaré hier l'administration de Donald Trump, que les réglementations ne devaient pas réprimer l'innovation et le progrès. Si les fuites de méthane ont été limitées par Obama en 2016, c'est parce que l'industrie pétrolière et gazière est responsable de 13 à 20% de ces émanations. Et surtout parce que le méthane est l'un des gaz à effet de serre les plus puissants, 20 fois plus réchauffant que le CO2.
On poursuit avec le deuxième sujet de ce journal, avec la création du premier microprocesseur, non pas en silicium, mais en nanotubes de carbone.
On peut parler d'une prouesse technique. Les nanotubes de carbone ont des propriétés électroniques et mécaniques remarquables. Ils possèdent le record de conductivité thermique, mais du fait de leur taille nanométrique, ils sont extrêmement difficiles à manipuler et ils présentent une très grande variabilité de leurs propriétés électroniques. Cette étude parue jeudi dans Nature a permis de contourner un certain nombre de verrous qui existaient jusqu'à maintenant. Les chercheurs du MIT ont créé ce prototype. C'est une étape importante, mais il y reste quelques limites. Déjà, les performances du processeur sont très restreintes. À 10 kHz, on est proche des capacités des premiers Intel des années 70. Et surtout, il a fallu 14 000 transistors en nanotubes de carbone pour son élaboration. On est donc encore loin d'une fabrication de masse. Taki Kontos est chercheur CNRS et spécialisé dans les nanotubes de carbone.
C'est une collection de nanotubes de carbone. C'est un peu comme une espèce de plat de spaghetti qu'on aurait étalé sur une surface et qu'on serait venu connecter avec des morceaux de métaux, en fait. Ce sont des spaghettis nanométriques, mais c'est un peu ça l'idée. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un seul spaghetti attaché à deux électrodes et puis connecté aussi à une troisième électrode pour faire une géométrie de transistor au final. Et ça, en fait, l'étude, comme on parut dans Nature, en est très loin. Ça, c'est en fait, cette étude représente un très bel espoir. Mais si on veut utiliser en fait les potentialités ultimes des nanotubes de carbone, on devra se passer des astuces qui ont été utilisées dans cette étude. Parce que cette astuce utilisée dans cette étude repose sur le fait qu'on a affaire à un très grand nombre de nanotubes de carbone. L'intérêt des nanotubes de carbone est qu'ils donnent l'espoir d'une miniaturisation extrême, puisque ce sont des objets nanométriques, bien plus grande que la miniaturisation qu'on a actuellement dans les processeurs.
En bref, si l'apparition des premiers dinosaures était liée à une augmentation du taux de dioxygène dans l'atmosphère.
C'est une théorie suggérée cette semaine par des géochimistes et des géologues américains. Des roches du plateau du Colorado ont été de nouveau examinées. Grâce à une nouvelle technique de mesure des niveaux d'oxygène dans d'anciens minéraux, ils se sont aperçus qu'entre 225 et 230 millions d'années, les taux d'oxygène avaient bondi de 30%. Au même moment où apparaissent ces pics, on voit apparaître les premiers dinosaures nord-américains. Il reste à définir s'il s'agit là d'un rapport de cause à effet ou d'une simple coïncidence.
Voilà, tout au long de la semaine dans le journal des sciences qui est quotidien, désormais depuis lundi, il a été question notamment des conséquences sur la biodiversité des incendies en Amazonie, de la non-interdiction ou des tests sur les abeilles de la Commission européenne, de la découverte d'un crâne d'Australopithèque de 4 millions d'années et d'une étude qui montre comment les stéréotypes de genre fonctionnent, même chez les scientifiques. Vous pouvez retrouver tous ces sujets sur le site du France Culture et de la méthode scientifique sur franceculture.fr, mais également Natacha, cette semaine, en ultra bref en sciences.
Le Népal a décidé d'interdire le plastique à usage unique. Chaque année, les 150 000 touristes qui montent sur l'Everest laissent derrière eux 3 tonnes de déchets. L'interdiction devrait entrer en vigueur dès janvier 2020. En bref toujours, la NASA a annoncé le lancement de la mission Europa Clipper, avec pour destination Europe, la lune de la planète Jupiter. Sous sa surface se cacherait un océan gigantesque. Le lancement de la sonde est prévu pour 2023.
Et le vendredi tout de même, parce qu'on ne pouvait pas s'en séparer comme ça, nous avons gardé notre rubrique hebdomadaire de sciences improbables. Et pour bien commencer la saison, et comme il fait relativement chaud encore dehors, nous vous parlons de la revue American Thoracic Society qui relate un cas rare, un homme hospitalisé après avoir reniflé ses chaussettes.
On pensait que cet homme de 37 ans souffrait d'une pneumonie. Il s'agissait en réalité d'une infection fongique pulmonaire, autrement dit d'une mycose invasive. Il avait pris l'habitude de renifler chaque soir ses chaussettes, inhalant donc quotidiennement les champignons microscopiques sous ses orteils.